Bonjour, vous écoutez le podcast de l'APM. Aujourd'hui, nous accueillons Maximilien Brabec, avec qui nous allons parler curiosité et nouvelles créations de valeur. Maximilien est consultant et praticien en stratégie et innovation. Il accompagne entreprises et startups sur ces sujets depuis 18 ans, notamment à l'APM, où son expertise est plébiscitée. Auteur prolifique, il a publié plusieurs ouvrages comme « Business Model Vert, l'économie durable pour une stratégie gagnante » ou « Repenser l'entreprise ». Son nouvel ouvrage à paraître est une sorte de guide en trois étapes fondamentales pour créer une rupture stratégique dans son entreprise. Bonjour Maximilien.
Bonjour.
Maximilien, pour te présenter, est-ce que tu peux nous raconter la fable de la mouche et de l'abeille face à leur envie d'innover ?
Oui, alors c'est le prix Nobel littérature 2011 qui a fait cette expérience, c'est un Belge. Et l'expérience est la suivante, il prend une carafe transparente et il met l'entrée de la carafe orientée vers la lumière. À partir de là, il introduit des abeilles. Et les abeilles, à peine rentrées dans la carafe, elles savent que la sortie, elle est vers la lumière et elles sortent immédiatement de la carafe. Quand il expérimente avec des mouches, celles-ci rentrent dans la carafe, elles n'ont pas de connaissances, elles n'accumulent pas de connaissances. Et donc, elles savent pas que la sortie est du côté de la lumière et elles mettent un temps fou à ne pas sortir, si j'ose dire. À partir de là, ce que l'expérience change, ce que fait l'expérimentateur, il inverse la carafe. Dorénavant, c'est le culot de la carafe qui donne vers la lumière. Et il recommence, il introduit des abeilles. Et là, en fait, elles vont toutes périr parce qu'elles croient que la sortie est vers la lumière. Or, c'est l'inverse puisque la carafe a été retournée. Donc, elles vont toutes au fond de la carafe et elles vont toutes périr. Alors que toutes les mouches vont s'en sortir. Ce qui est intéressant, c'est que les abeilles périssent à cause de ce qu'elles croient savoir, mais qui n'est plus vrai. Et ce qui est intéressant, c'est que la rotation de la carafe pour nos entreprises, ça correspond aux discontinuités de notre environnement. Quand on a des discontinuités, on a tendance à aller en sens contraire de la discontinuité. On veut encore aller vers la lumière. Alors que toutes les mouches s'en sortent. Et ce qui est intéressant, c'est que comme elles ne se posent pas la question du savoir, elles s'autorisent à aller un peu partout. Et c'est ce qui fait peut-être qu'elles trouvent la sortie que les abeilles n'ont pas trouvée. Donc, est-ce que les entreprises ne devraient pas faire un peu plus de mouchitude ?
Alors, qu'est-ce que c'est la discontinuité appliquée au monde dans l'entreprise ?
La discontinuité, c'est qu'en fait, la rotation de la carafe, elle est sournoise, on s'en rend pas compte, elle n'est pas visible. Et donc, le plus gros danger d'une entreprise, c'est les mutations qui sont lentes et indésirables. Une mutation lente, eh ben, on a le temps d'attendre avant qu'elle soit brutale. Du coup, on va pas faire attention. Et encore plus quand elle est indésirable.
Une mutation lente, et est-ce qu'une mutation on va dire rapide, instantanée, là, comme celle qu'on a vécue, comme le cas d'une crise Covid. Est-ce que ça rentre dans le cadre des discontinuités que tu cites ?
La crise du Covid, c'est ce qui est très intéressant dans la crise du Covid, c'est que les entreprises devraient redoubler de curiosité parce que la crise de la Covid a créé plein d'inattendus. Et donc, faire de la mouchitude, c'est accepter de se perdre à sortir de la carafe. Si vous sortez de la carafe sans accepter de vous perdre, vous sortez pas de la carafe. Donc, faut accepter de sortir de la carafe et donc se mettre en errance. Errer veut dire aller de gauche à droite à l'aventure. Aventure veut dire ce qui advient. Et donc, c'est en se mettant en errance lié à la Covid-19 qu'on va recueillir tous les étonnements. Celui qui saura s'étonner sur tout ce qui se passe avec la Covid-19 pourra surfer sur des nouvelles potentialités latentes à la Covid-19.
Et alors, une fois que je me suis étonné et que j'ai surfé, c'est quoi l'étape d'après ?
L'étape d'après, c'est la crise de la Covid vous oblige à vous alléger. Donc, si vous voulez une image, je suis en train mon bateau est en train de couler et Maximilien nous dit, il faut regarder ce qui se passe. Puisqu'il faut faire de l'errance. Donc, j'accepte de me perdre alors que mon bateau coule. Donc, avec la crise de la Covid, il va y avoir, entre guillemets, des sévérisations économiques pour les entreprises. Et donc, il faut coupler à cette errance le fait de redevenir léger dans l'entreprise. Donc, redevenir léger, c'est comment, dans mon entreprise, avec mon existant, je peux faire much more avec much less. Voilà. Donc, comment je peux, entre guillemets, avec beaucoup moins de ressources, faire beaucoup plus qu'avant sur mon existant. C'est ce qui fait que je vais dégager de la ressource pour être en curiosité. Par contre, par rapport à votre question, la curiosité, c'est prendre le temps de stocker tout ça. Le après, il n'y en a pas en fait. Le après, c'est dès qu'on a trouvé des opportunités, alors on va les expérimenter. Et ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est même avant d'expérimenter des opportunités, c'est d'expérimenter, moi j'appelle ça la boîte à destruction. Il y a un truc qui est très intéressant pour nos entreprises, pour quitter la carafe, ça s'appelle la métacognition. C'est se dire, ah, je me rends compte dans l'entreprise, vous êtes dans l'entreprise, et vous dites, tiens, je me rends compte que je suis en train de me dire que ce que lui me dit, c'est ridicule. Ben, je le mets dans une boîte. Tout ce que chacun a ressenti comme ridicule, il le met dans une boîte. On met dans la boîte tout ce qui est ridicule, tout ce qui a été perçu comme interdit. Non, mais ça, c'est interdit. Derrière des interdits, il y a des tas de choses à aller voir. C'est impossible, c'est indésirable. Et à partir de là, on a une boîte à destruction. C'est-à-dire cette boîte, on y a mis tout ce qui nous paraît ridicule, nous les abeilles, et on va faire non pas des tests type POC, preuve de concept, non. On va faire des unlearning tests. On fait des tests pour nous étonner. Donc on va aller creuser ces ridicule, creuser ses indésirables, creuser ses impossibles, creuser ses interdits pour découvrir ce qu'on ne sait pas qui va se révéler grâce à ça. Et en fait, c'est comme ça qu'on crée une disruption. Vouloir disrupter l'existant ne permet pas de faire une disruption. C'est en détruisant nos croyances et en remplissant cette boîte à ridicule et en faisant ces tests de désapprenance qu'on trouve des disruptions pendant le parcours.
Et alors, on pourrait imaginer que le moment qu'on a vécu dans un confinement, quand tout s'arrête d'un coup, c'est propice à l'errance. Est-ce que tu as constaté ça auprès des entrepreneurs que tu rencontres tous les jours? Est-ce que tu as eu des exemples? Parce que ça fait longtemps que toi, c'est ton point de vue. Et là, est-ce que ça a permis d'amplifier cette errance, cette curiosité développée, cette prise de recul?
Ben, moi, je le vois, par exemple, quand on est dans un club APM, je les fais travailler sur, tiens, c'est quoi les étonnements liés à la COVID-19? C'est quoi nos inattendus? Et donc, ensemble, de manière collective, on récolte ça. Je voudrais vous alerter, d'ailleurs, plus le COVID devient âgé, moins on s'en souvient. Moi, je pense que les entreprises devraient être attentives à ça. Une fois qu'on a bien collecté les inattendus, on met en face les métiers des entreprises et on essaye de trouver des liaisons. Alors, je ne sais plus très bien maintenant, parce que j'en ai fait quelques-unes récemment, mais il me semble qu'il y a une entreprise qui fait des tas de choses intéressantes en termes de prestations de services liées à des dimensions humaines, et on s'est rendu compte qu'elle pouvait développer des tas de choses de manière digitale comme elle ne l'avait pas imaginé. Et quand elle a vu, par exemple, qu'on a des chiens quadrupèdes qui, aux États-Unis, c'est un inattendu ça, hein, c'est des chiens quadrupèdes, des robots chiens quadrupèdes, qui, aux États-Unis, s'occupent des patients atteints de la COVID pour épargner les soignants, ça paraît complètement dingue, voire ridicule, n'empêche que ça a été fait. Et c'est à partir de là qu'on s'est ouvert, grâce à cette intelligence multicollective, parce qu'il y avait plein de dirigeants de milieux différents, et donc il y a des dirigeants qui ont sorti des ridicules pour d'autres. Et c'est ça qui a aidé à se dire, ah ben ouais, tiens, est-ce que moi je devrais pas, cette partie de compétence que j'ai, est-ce que je pourrais pas la digitaliser pour la déployer au plus grand nombre à l'échelle mondiale?
Et alors, les dirigeants, on a compris dans quelle posture tu leur suggères de se mettre. Comment on fait pour embarquer son équipe là-dedans? Comment on fait pour engager autour de cette posture-là, hein? Puis t'as dit qu'il fallait désapprendre, qu'il fallait être curieux, qu'il fallait oublier ce qu'on sait. Quand on est convaincu soi-même, comment on embarque les autres là-dedans?
Déjà, aujourd'hui, donc la crise de la COVID fait qu'on fait de la surenchère d'activisme. Hein, quand on a une menace. Le cerveau est ainsi fait que le cortex préfrontal, qui est l'organe sublime de la pensée, il s'éteint. Et donc, au profit des instincts primitifs. Et les instincts primitifs, c'est « il faut qu'on fasse des choses pour sauver le bateau qui coule ». Voilà. Donc ça, c'est un danger pour les dirigeants. Je pense que la meilleure antidote, c'est de revenir aux points clés de l'entreprise. C'est quoi l'architecture de nos points clés? Et on enlève tout le reste. Et du coup, on va mieux se centrer, ce qui est important de faire, dans l'état actuel de la situation sur l'existant. Et c'est en se recentrant sur l'architecture des points clés qu'on dégage de la ressource et qu'on peut trouver le temps de se mettre en errance. Je pense qu'il y a une deuxième réponse. Moi, j'ai très peur que la crise de la COVID créer un effet soufflé au fromage au niveau de l'engagement des hommes. Je m'explique, la crise est arrivée. En général, dans toutes les entreprises, en tout cas, c'est ce qu'ont témoigné les dirigeants APM, les hommes, ils ont fait preuve d'un engagement extraordinaire. Moi, je voudrais vous dire, j'ai peur de ça, j'ai peut-être tort, hein, mais je me dis, tiens, voilà, tu es dans un bateau, tu as pris une déferlante, il a pris l'eau, alors là, on est tous engagés pour vider l'eau. Bon, imaginons qu'il y ait une deuxième déferlante encore plus forte. Et ensuite, une troisième. À la fin, les gens, leur engagement va s'essouffler. Et j'ai peur de ça. Et donc, la réponse à ça, c'est quel est notre rêve de nouvelles valeurs qui le vaut bien avec la Covid-19? Et donc, vous avez deux postures. Soit vous subissez la crise, vous subissez les déferlantes, et vos hommes les subissent, il n'y a plus de sens. Soit vous vous dites, tiens, en quoi on peut surfer avec ces déferlantes, et ce qui n'a rien à voir. Et du coup, la question clé, c'est de se dire, grâce à cette curiosité qu'on a développée, grâce à la légèreté qui nous a permis d'aller dans la curiosité, tiens, au fait, mais qu'est-ce qui nous excite à l'idée de la porter avec la Covid-19? Et ce qui est intéressant, c'est que le risque relatif est très identique entre subir les déferlantes ou prendre le risque d'apporter une nouvelle valeur. Le risque est le même. Par contre, l'engagement des hommes n'est pas le même.
Et oui, et alors comment ça se fait selon toi que la perception du risque soit différente? On a toujours l'impression que c'est beaucoup plus risqué de renverser la table et de tout changer que d'essayer de trouver la continuité logique.
Alors ça c'est entre guillemets, c'est quand une entreprise a de la valeur, elle nous fait peur cette valeur. On en devient mercenaire. Alors je vous soumets une citation de Sénèque qui est assez impressionnante. Qui dépend des richesses, qui dépend de sa boîte, qui a atteint une certaine valeur. Elle s'est développée, elle a une certaine valeur au moment de la crise. Qui dépend des richesses craint pour elle, donc je crains pour ma boîte. Voilà. Alors celui-là, le patron d'entreprise de la boîte qui a pris de la valeur, il va s'attacher à y rajouter quelque chose. On va rentrer dans du suractivisme pour permettre à la boîte de gagner, de conserver sa valeur. On pense qu'il faut faire plein de choses. Voilà. Donc il va s'attacher à y rajouter des choses. Pendant qu'il pense à les accroître, il a oublié de s'en servir. De maître, il est devenu gérant. Donc, je crois que la crise, c'est un moment clé, c'est un momentum pour nos entreprises de se remettre en missionnaire. Qu'est-ce qui nous excite depuis la nuit des temps dans notre entreprise à apporter quoi au monde? Est-ce qu'on ne devrait pas revenir à ça? Et est-ce que la crise, ça ne le vaudrait pas qu'on revienne à ça pour avoir un nouveau rêve de valeur avec ce qui profondément chez nous nous excite depuis tous les temps à apporter des choses au monde? Voilà. Alors je peux vous donner un exemple. J'ai travaillé pour une entreprise qui entretient dans les services des chaudières. Cette entreprise, ce qui est leur énergie de tous les temps, missionnaire en tant qu'apporter aux autres, c'est nous ce qui nous excite, c'est on prend un équipement et on le fait progresser dans la durée en relevant des défis techniques. Et ben avec la Covid, c'est intéressant de se dire, ok, quel défi se fixe-t-on en tant que permettre à des équipements de progresser dans la durée avec la Covid-19 et de manière utile avec la Covid-19? Donc en clair, quel nouveau défi se fixe-t-on par rapport à cette énergie qui est en nous et qui nous en rend infatigables et qui va nous faire oublier les déferlantes?
Et alors toi, Maximilien, tu as fait plus de 460 rencontres à l'APM. Tu es sur le sujet depuis de nombreuses années. Comment, toi, tu t'es renouvelé? Comment tu repars en mission et tu régénères chez toi cette envie foudroyante de déplacer des montagnes?
Alors, je suis un autodidacte. Donc, je sais que je sais rien. C'est une citation de Socrate. En fait, le jour où tu es expert, tu progresses plus. Donc moi, je ne suis pas un expert, je suis une brêle dans mon sujet. La deuxième chose, c'est que je suis passionné par mon sujet, c'est mon énergie ce sujet, voilà. Et la troisième chose, c'est que je suis rebelle par rapport à moi-même, c'est-à-dire que je passe mon temps à me dire, tiens, tu crois qu'en fait la sortie, elle est là, et si c'était des bêtises, alors il faut que tu ailles au-delà de ça. Et en fait, le progrès, c'est de dépasser les croyances. C'est vraiment la clé des chercheurs. Tous les chercheurs, moi, j'ai été très marqué. J'ai bossé avec des écosystèmes innovation. Les chercheurs les plus efficients, ils me disent tous, l'Europe nous oblige, pour avoir des fonds, à dire où on veut aller. Un chercheur ne sait pas où il veut aller. Mais c'est là où il va aller qui va lui montrer là où il faut aller. C'est un peu ce que je fais avec les entreprises, à travers les expériences. Et donc, mon contenu à l'APM, il change sans arrêt. Sans arrêt, je critique des propos que je tenais avant, il y a encore quelques années.
Et alors là, du coup, le nouvel ouvrage dont on parlait tout à l'heure, là, tu proposes une sorte de méthode en fait pour réussir cette rupture stratégique là.
Non, alors, l'ouvrage il remet les pendules à l'heure, si j'ose dire. On parle beaucoup de créativité. Moi-même, j'ai beaucoup développé, j'ai même édité des outils de créativité stratégique. Or, en fait, il y a trois temps. Donc, je voudrais vous les soumettre. Hein. Avant de faire la créativité, il y a un premier temps, c'est la destruction. Voilà. Et il faut bien séparer les deux. Donc, il faut prendre ce temps, destruction. On s'amuse à détruire nos croyances en faisant des unlearning tests, des tests pour désapprendre. Voilà. Et on passe son temps à s'étonner de tout ce qui se passe, en observant tout ce qui se passe. Voilà. Je vous signale une citation d'André Gide. Le sage est celui qui s'étonne de tout. Voilà. Donc, en fait, la créativité n'est que l'expiration du cerveau. Il faut l'inspirer. Et l'inspirer, c'est sortir de nos croyances collectives, sortir de, voilà, la sortie, elle est toujours de ce côté-là, elle est là où il y a la lumière. Donc ça, c'est la destruction. Ensuite, deux, il y a créativité. Et en fait, trois, il y a essentialisation. Et en fait, tous les disrupteurs majeurs, c'est des gens qui, une fois qu'ils ont été inspirés, grâce au couple destruction-création, on est dans la phase invention. On a trouvé une source d'invention. Pour transformer cette invention en création de valeur, pour moi, c'est la définition de l'innovation. L'innovation, c'est une invention qu'on a transformée en création de valeur. Ces gens-là passent leur temps à revenir aux principes fondamentaux et à faire l'architecture des principes fondamentaux. Je peux donner un exemple. Elon Musk avait été en Russie pour acheter des envois de satellites censés concurrencer la 5G. Donc c'était un envoi de satellites de type télécommunication. Et quand il est allé en Russie, il a tellement questionné les gens qu'ils ont décidé de pas travailler pour lui parce qu'il il leur a fait peur. C'est un type très curieux, Elon Musk. Intéressant, il pose plein de questions. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que quand il est rentré donc de Russie, ses acolytes qui étaient avec lui se sont rendus compte qu'il a passé tout le vol retour à griffonner sur un papier. Et ils lui ont dit, mais qu'est-ce que tu fais? Et il leur a dit, voilà, moi, ce que je fais, c'est l'essentiel, c'est ce qu'il y a de plus dur. J'essaye systématiquement de revenir aux principes fondamentaux. Et il leur a expliqué, à partir de là, voilà ce que j'ai trouvé comme principes fondamentaux d'un lanceur. Voilà ce que j'ai trouvé grâce à toutes les questions que j'ai posées. Alors maintenant que j'ai vu les principes fondamentaux, on va faire un lanceur qui sera capable de revenir plusieurs fois. On en est à la sixième fois. Et ce qui est très intéressant, c'est que récemment, Toyota, Volkswagen ont désossé la Tesla 3 pour essayer de voir un peu ce que c'est à l'intérieur. Et ils se sont rendus compte qu'elle a 6 ans d'avance par rapport à ce qu'ils sont en train de concevoir maintenant. Pourquoi ? Parce que c'est une architecture. La Tesla, c'est une architecture numérique, un peu comme un iPhone. D'ailleurs, vous avez plein de citations de Steve Jobs là-dessus. Hein. Steve Jobs est un minimaliste. C'est quoi les points clés minimalistes dont on fait une architecture ? C'est le less qui permet de faire much more.
Maximilien, un grand merci pour cet échange. L'ambition de l'APM, c'est d'aider les entrepreneurs à se transformer, à créer de la richesse et à contribuer de façon positive au monde qui les entoure. Quels conseils pourrais-tu donner aux entrepreneurs qui souhaitent que l'innovation soit une partie intégrante de la culture de leur entreprise, qu'elle irrigue partout, qu'elle soit omniprésente?
Alors déjà, l'innovation, pour moi, ce n'est pas une fin en soi. Donc c'est, à la limite, il ne faut pas raisonner comme ça. L'innovation est la résultante d'un parcours. Et ce parcours, c'est 1, destruction, 2, création, 3, essentialisation. Donc la clé, c'est comment dans mon entreprise, je ritualise, je favorise ce parcours au plus grand nombre. Et à partir de là, c'est ce qui fait qu'on innovera. Et il y a beaucoup trop d'entreprises, et on le voit à plusieurs titres, qui veulent disrupter leur existant, alors que c'est pas ça qu'il faut faire. Il faut créer une disruption. Créer une disruption, c'est... D'ailleurs, on voit bien les entreprises établies, par exemple Toyota, Volkswagen, ils se sont fait disrupter par des nouveaux entrants. Mais ces nouveaux entrants, ils se sont pas dit « Alors comment je peux disrupter Toyota ?» Non, ils ont créé une disruption. Regardez le passé, Microsoft aurait dû inventer Google, mais Google n'a pas été créé pour disrupter Microsoft. Google aurait dû inventer Facebook, Facebook a disrupté, si j'ose dire, Google, puisque Google Plus s'est planté, Google Plus, le réseau social de Google. Et en fait, Facebook ne s'est pas posé la question de disrupter Google. Et ce qui est intéressant, c'est que le même Facebook est en train de se faire disrupter par TikTok, qui n'a pas fait une fixation sur Facebook. Il s'est laissé aller à une disruption et il s'avère que cette disruption dérange fortement TikTok.
Merci Maximilien, merci pour tous ces retours éclairants et à très bientôt.
Merci beaucoup et vive la PM.